23h28, vous êtes sur Europe 1 et nous accueillons Cédric sur la libre antenne. Bonsoir Cédric.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir, comment allez-vous Cédric?
Très bien, et vous?
Très bien, très très bien. Vous avez 34 ans, c'est ça?
C'est ça, oui.
Et vous nous appelez, vous voulez nous dire d'où vous appelez ou vous préférez garder ça pour vous?
On peut le dire, hein, Châteauroux.
D'accord, très bien. Alors dites-moi tout.
Eh ben, je vous appelle parce que j'avais déjà appelé Sabine il y a un mois.
Oui.
Et donc je voulais donner un peu la suite des événements.
Mmh.
Donc pour rappel, c'était mon fils qui est maltraité chez sa mère depuis 2 ans.
D'accord.
Qui a été placé en famille d'accueil. Et là, qui a été remis chez sa mère cette année à cause de la Covid. Et moi, le problème, c'est que depuis plus d'un an maintenant, je ne vois plus mon fils. Je ne l'ai vu que 3 heures en tout depuis août 2019, en milieu médiatisé.
Alors, remontons un peu le temps pour que oui. Toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir et qui n'ont pas obligatoirement entendu votre témoignage chez Sabine, afin de savoir dans quelles conditions vous vous êtes séparés déjà avec madame.
On s'est séparés en 2015 et il y a eu une séparation un peu difficile où j'ai pas pu revoir mon fils tout de suite après la séparation. Madame a été très, comment dirais-je, accaparée par mon fils. Enfin, elle accaparait beaucoup mon fils et c'était très difficile de pouvoir le revoir. J'ai attendu plusieurs mois avant de pouvoir le revoir. Et quand j'ai pu le revoir, c'était sous sa surveillance par peur que je l'emporte avec moi.
Oui.
Et après, il y a eu un jugement qui disait que je pouvais avoir mon fils pour toutes les vacances scolaires. Donc, entre janvier 2016 jusqu'à... août 2018, tout se passait très bien jusque-là. Je pouvais l'avoir pour les vacances, il n'y avait pas de problème. Sauf que depuis 2017, monsieur a commencé à arriver, et le nouveau compagnon de madame est arrivé.
Oui.
Et il a commencé à être très discret, puis après, ça a été, il a voulu imposer ses jours pour que je puisse voir mon fils. Donc c'est lui qui devait décider des horaires, parce qu'il fallait que ça l'arrange lui pour que je puisse voir mon fils. Après, ça a été des petites sournoiseries où, quand je venais chercher mon fils, il était là un peu, il cherchait à me provoquer.
Oui.
En disant que c'était lui l'autorité et que c'était que j'écoute monsieur dans la façon d'éduquer mon fils.
Ce qui est particulièrement désagréable.
Désagréable, oui. Surtout que je pensais bien éduquer mon fils, donc je ne pensais pas avoir de problème par rapport à ça. Donc je lui ai gentiment dit plusieurs fois qu'il n'était que le beau-père et qu'il n'avait rien à dire sur ma façon d'éduquer mon fils. Et d'autant plus qu'il n'y avait que sa mère et moi qui avons l'autorité parentale, donc c'était à nous deux d'en parler et pas à lui. Qu'il n'a pas apprécié.
Non, mais je dois vous dire que vous avez totalement raison. Que même si cet homme, qui peut-être est habité de très bons sentiments, il y a une règle qu'il ne faut absolument pas contourner ou briser. C'est que lorsqu'on a deux parents, on respecte. Cette autorité oui. parentale, et on ne va surtout pas dire à un papa qui est séparé en plus, on va pas lui dicter sa façon d'éduquer son fils,
tout
ça c'est clair.
Oui. Après, il y a des bons beaux-pères, hein, ça je veux pas revenir là-dessus. Mais moi, ce que je lui ai dit plutôt, c'est que ce n'était pas à moi de m'adapter à sa façon de faire à lui, c'était plutôt à l'inverse. Parce que vu que c'était moi le père et lui le beau-père, c'était à moi de m'adapter. Enfin, lui s'adapter. Parce que si madame change de monsieur assez régulièrement, je ne vais pas m'adapter à chaque monsieur dans l'éducation de mon fils. Donc, c'était complètement ahurissant.
Oui, vous avez raison.
Et donc, alors, moi, ça me dérangeait
il
pas.
Il a réagi comment quand vous lui avez dit ça?
Quand je lui ai dit ça au téléphone, il l'a très mal pris. Et ça l'est pris après mon fils verbalement. C'était en décembre 2018.
C'est-à-dire
2017. Tu fais chier, petit con, retourne dans ta chambre.
Quel âge a-t-il, votre fils?
Il va avoir 7 ans le mois prochain.
Mmh. La prochaine fois que vous l'aurez au téléphone, s'il essaie encore de vous parler, vous lui direz qu'avant qu'il vous donne le moindre conseil sur l'éducation de votre fils, qu'il apprenne au moins déjà à parler à un enfant à qui on ne dit surtout pas petit con. Enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Oui, oui.
C'est un âge où, en plus, les enfants se construisent, absorbent, et puis surtout ont comme référence les adultes qui sont autour d'eux. Et il en fait partie hein, aujourd'hui de cette référence. Hein. Il est une des références de ce petit bonhomme. Donc lui dire petit con à 7 ans, voilà, pour les conseils éducatifs, renvoyez-le à apprendre un petit peu quoi. Il est papa lui ou pas?
Lui il est papa, oui, lui il a deux enfants aussi.
D'accord. Qui vivent avec votre ex-compagne?
Oui, oui, oui.
D'accord, donc ça veut dire que votre petit bonhomme, il a donc deux autres enfants là-bas à la maison.
C'est ça. Enfin, ils sont séparés il y a pas longtemps.
Ah, ils se sont séparés, d'accord.
Oui.
Bon, bah ça c'est déjà un problème en moins pour vous.
C'est déjà un problème en moins, oui, un gros problème en moins.
Bah
oui.
ouais, mais de taille.
Oui, c'est sûr. Et donc oui, donc je reprends le fil de
Allez-y,
de
je vous en prie.
Donc oui, il a commencé à être très très autoritaire, à chercher à me provoquer. Il fallait que je lui dise absolument bonjour ou absolument au revoir quand je passais les voir ou. C'était ce genre de choses, alors que moi, j'ai dit bonjour à l'ensemble des personnes que je voyais, pas à lui spécialement, mais à lui, il voulait absolument que je vienne lui serrer la main pour lui dire bonjour. C'était pas spécialement mon envie, mais bon. Après, ça a été, oui, ton fils, il faut que tu l'éduques mieux, tu l'éduques pas bien. Ça a été que des réflexions comme ça pour me pousser, pour me pousser hors de moi.
Hein. Oui, oui, bah oui, c'est clair.
Et un jour, mon fils. Ne voulait plus retourner chez sa mère. Mmh. Il m'a fait ça une fois, deux fois. Il m'a fait des fausses crises de ventre où il fallait que je l'amène à l'hôpital en pleine nuit. Après, la seconde fois, c'était une crise d'oreille. Il avait mal aux oreilles, il fallait que je l'amène à l'hôpital alors qu'il n'avait aucune réelle douleur. C'était juste parce qu'il voulait aller à l'hôpital pour ne pas retourner chez sa mère. Mmh. Et jusqu'en août 2018, où là, cette fois, c'était accroché à la ceinture. « Papa, pitié, je ne veux pas aller chez maman. Pitié, pitié, pitié. » Et ma mère qui m'accompagnait ce jour-là s'est mise en colère sur mon ex-compagne en disant qu'il fallait absolument qu'elle se passe quelque chose parce que l'enfant n'était pas bien et qu'elle réagisse parce que ça faisait plusieurs fois qu'on lui disait qu'elle ne réagissait pas. Et là, lui s'est mis en colère sur ma mère et jusqu'à la pousser et la plaquer contre la voiture. Donc j'ai dû intervenir pour le calmer. Il s'est calmé, il s'est caché derrière madame.
Oui.
Et c'est là que ça a commencé vraiment... l'histoire, et du coup, mon fils est reparti avec sa mère, ma mère a porté plainte contre lui, et lui a porté plainte contre moi. Et deux mois après, l'école m'appelle pour me dire que mon fils présente des bleus sur lui, à des zones un peu bizarres, sur les fesses, sur les hanches, le visage, les jambes, les bras.
C'est l'école qui vous appelle ?
Oui, oui, oui.
D'accord.
Et la directrice me dit, bah voilà, il dit que c'est son beau-père qui le frappe. Donc, comment vous dire que quand on a 400 km de son fils, on n'a qu'une envie, c'est de faire la route pour aller chercher et qu'on ne peut pas.
Mmh. Bien sûr.
C'est interdit. Et j'ai ruminé pendant 15 jours et la mère me dit que non, c'est pas vrai, c'est l'enfant qui ment, c'est un accident scolaire, il s'est cogné contre une petite fille. Donc, on ne sait pas trop où on en est. Et quand je récupère mon fils, il a encore des bleus sur le visage, les hanches, les fesses, les bras... Et ça me met hors de moi. Donc j'ai été porté plainte.
Oui.
Donc l'enfant dit bien que c'est son beau-père, sa mère et sa grand-mère qui le frappe.
Okay.
Oui. Donc là, je décide de garder mon fils chez moi. Donc de octobre 2018 jusqu'à janvier 2019, où madame vient récupérer l'enfant chez moi, enfin à l'école que j'avais, à l'école à côté de chez moi, oui. Pour me prévenir. Et donc, du coup, bah, je saisis la juge des enfants quasiment tout de suite pour le danger potentiel qu'il peut y avoir. Et là, on apprend chez la juge des enfants que monsieur est suivi déjà par cette juge-là pour des faits similaires pour ses propres enfants.
D'accord. Donc, en gros, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, par contre
Aujourd'hui, bah, mon fils... Oui.
Si vous voulez rajouter quelque chose qui puisse nous éclairer sur ce dont vous allez nous parler quant à votre situation actuelle, n'hésitez pas, hein, Cédric.
Juste une chose, c'est que donc là, il est resté chez sa mère. Très vite, 15 jours après, je reviens le chercher pour exercer mon droit. Il présente encore des bleus, donc je redépose plainte. On retourne chez la juge. Et là, il y a une seule chose qui coince, c'est que la mère présente une photo de mon fils juste avant de me le donner, avec l'heure et date, de mon fils sans bleu. Et moi, une heure après, j'ai une attestation du médecin avec des bleus anciens et une brûlure.
Comment ça, une heure après? Expliquez-moi, je ne comprends pas.
Le temps d'aller, de voir qu'il y avait d'autres bleus et de l'emmener à l'hôpital, le médecin a constaté des bleus anciens.
D'accord. Je me mets à la place de ce petit bonhomme qui est spectateur de tout ça. Mon Dieu. Ça doit être pour lui déboussolant totalement. Vous vous rendez compte? Que fait la justice par rapport à cette maltraitance? Parce que. On parle beaucoup, hein. Madame Macron s'est lancée dans ce combat, elle en fait un combat personnel et des objectifs cette année de renforcer la législation autour des violences faites aux enfants. Il faut savoir qu'en France, tous les deux jours, il y a un enfant qui meurt à cause de violences. Alors de violences qui peuvent être aussi de la malnutrition, hein, des coups bien évidemment... mais pour tout un pas soigné, enfin voilà, pour tout un tas de violences, puisque quand on ne vient pas en aide à un enfant, c'est de la violence.
Tout à fait.
Comment se positionne la justice par rapport à la plainte que vous avez portée?
Eh ben, mes deux plaintes ont été classées sans suite contre monsieur. Maintenant, il n'y a qu'une enquête qui est en cours, c'est pour la photo, enfin la différence entre la photo et l'attestation de médecin. L'enquête se repose exclusivement sur ça maintenant au niveau du pénal.
Vous avez tout de même un médecin qui, ce jour-là, établit un rapport sur votre fils, constatant...
Il l'a dit, il a été auditionné par la gendarmerie et par la juge. Il dit bien qu'il y avait bien des bleus ce jour-là et que c'était impossible que ce soit moi qui l'ai fait en une heure de temps. Parce que les bleus étaient déjà... Et c'était pas des bleus violacés, c'était des bleus qui étaient déjà jaune-vert.
Mais ce petit bonhomme...
En une heure de temps, c'était impossible que ce soit moi.
Il parle, ce petit bonhomme, à 7 ans. Qu'est-ce qu'il dit au médecin ce jour-là? Qu'est-ce qu'il raconte au médecin? Parce qu'à 7 ans, raconte...
Il n'avait pas 7 ans à l'époque, il avait encore à peine 5 ans.
Mais oui, mais à 5 ans, on dit à 5 ans, on est capable de...
Il lui présente son beau-père.
Ouais,
et le médecin était un peu, il savait pas trop si c'était moi qui l'avais influencé ou pas ce soir-là.
Le souci dans toutes ces guerres où les enfants se retrouvent au milieu, il y a toujours aussi à un moment la suspicion de manipulation, vous voyez.
J'entends bien. Mais la première fois qu'il le dit à l'école, il ne m'a pas vu depuis 2 mois et je suis à 400
km. Ouais.
Donc, au bout d'un moment, il n'y a plus de doute possible à avoir. Il l'a dit au juge, il l'a dit au policier 3 fois, 2 fois la police, 1 fois la gendarmerie. Il l'a dit aux médecins, aux infirmières, à l'école. Au bout d'un moment, même pendant le placement, il le disait bien qu'il était frappé ou parfois... écrasé contre un radiateur, on lui a écrasé la tête avec des chaussures de sécurité.
De toute façon, s'il y a une enquête d'ouverte sur cet homme concernant ses propres enfants, on peut difficilement imaginer remettre en doute la parole de votre fils. Ce qui est assez glaçant, c'est d'entendre que la justice classe ensuite. Sur quoi elle se base, en fait, cette justice pour classer sans suite?
Sur quoi il se base, c'est que l'aide sociale à l'enfance, au moment de la photo, il y a aussi l'aide sociale qui rentre dans la danse. Et là, ça a été, nous, on est venu voir l'enfant cette semaine. Il n'avait pas de bleu. Donc, on suppose, ils sont venus le mardi et le vendredi, je venais le récupérer. Et ils n'ont pas pu imaginer qu'entre le mardi et le vendredi, il a pu se faire frapper. Ils ont imaginé que c'était moi qui, en une heure de temps, ai frappé mon fils. Et elles ont dit, à part du principe que je suis jaloux de mon ex-compagne qui a refait sa vie, je veux les faire séparer. Donc la meilleure façon, c'est de l'accuser les deux de maltraitance pour pouvoir la récupérer après derrière.
Et donc de frapper votre fils, au passage.
Et donc de frapper mon fils, pour le manipuler, pour lui faire dire que c'est sa mère et son beau-père.
Vous seriez un sacré tordu, hein?
Ah oui, quand même.
Ouais. C'est pas l'impression que vous me donnez.
Je suis plutôt assez carré et cartésien. Donc,
et cash aussi. Oui. On entend... Voilà. Parfois, vous savez, sur cette antenne, il y a des gens qui m'appellent et qui me racontent des choses, leur version. Mais sachez une chose, c'est que dans le mensonge, il y a toujours une vibration, il y a toujours une intonation, il y a toujours un manque de... Je parlais de la légitimité, souvent, d'une situation. La prononciation des mots, les intonations, souvent trompent celles et ceux qui pensent que moi et mes collaborateurs, on les croit.
Oui.
Souvent, on abrège très gentiment, très cordialement, mais voilà. Je dis ça pour rappeler que cette libre antenne, elle est basée sur un principe, c'est que nous sommes là pour écouter les personnes qui nous appellent et les écouter. Et donc, on part sur un deal de confiance entre nous. Hein. On a,
oui.
Non, voilà, on n'a aucun moyen de vérifier puisqu'on est en direct et puis que moi je reçois la parole des uns et des autres comme ça. Parce que parfois, Florian me dit que sur le groupe de parole Facebook, on dit voilà, bravo pour ce professionnalisme journalistique. Il n'y a pas de professionnalisme journalistique là-dedans. Il y a un principe qui est d'échanger comme ça en direct,
oui,
spontanément et comme des adultes. Responsable de se faire confiance, donc d'essayer de faire avancer les choses. J'en profite aussi, pardonnez-moi Cédric, pour vous dire à vous qui nous écrivez au 739-21, surtout signez vos SMS de votre prénom, parce que là j'ai une dizaine de SMS qui sont à la suite les uns des autres. Vous me parlez de la Normandie, d'une belle région, vous me parlez du témoignage de Sylviane, mais vous ne signez pas vos SMS, donc où vous mettez votre prénom ou un pseudonyme. Donc, vraiment, vérifiez bien ça si vous voulez que je lise vos messages à l'antenne. Cédric, en fait, donc aujourd'hui, cela fait combien de temps que vous n'avez pas vu votre fils ?
Depuis février. Je l'ai vu qu'une heure et demie au mois de février.
Et pourquoi, en fait ?
Parce que le jugement du mois d'octobre, l'année dernière, me dit que je devais le voir... Une heure par quinzaine.
Une heure par quinzaine.
Oui, une heure tous les 15 jours. En lieu médiatisé.
D'accord. Alors, on va s'arrêter là et vous allez m'expliquer pourquoi, comment cette décision, elle découle de quoi. On marque une pause et puis on se retrouve tout de suite, d'accord ? À tout de suite, Cédric. Okay. 23h46. Vous êtes sur Europe 1, c'est votre libre antenne. Vous pouvez composer le 39-21. Nous sommes là, Natacha, Florian, Philippe sont là pour échanger avec vous. Cédric, donc cette décision de justice, elle est tout de même assez terrible par rapport à ce que vous venez de nous raconter. Elle paraît totalement disproportionnée dans son côté injuste. Comment elle est tombée, cette décision ? Pourquoi ?
Et cette décision est tombée que l'éducatrice de l'ASE de là-bas qui dit que pendant les 6 mois de placement de mon fils dans sa famille d'accueil, où on dit l'ASE dit que je vais y arriver, je suis trop présent, je fais trop valoir mes droits par rapport à mon fils pour les droits de visite, parce que je me suis battue pour avoir mes droits de visite qui étaient officiellement maintenus par la juge mais officieusement réduits par l'éducatrice. Et ça, j'ai beau me plaindre auprès de la juge, elle n'en a pas tenu compte. En plus, on a changé de juge au mois d'octobre 2019. Et c'est là que ça a tout déclenché. L'ASE dit que j'ai un problème psychiatrique. Sans aucune expertise, quoi que ce soit, on dit que j'ai un problème psychiatrique, que j'ai une tendance à me victimiser dans la situation. Alors que j'ai tout fait pour faire valoir mes droits et les droits de mon fils en disant que moi, j'étais trop loin pour être l'auteur des coups, que mon fils le verbalisait bien, que j'étais innocent, qu'il n'y avait rien contre moi. Et on me reproche de trop bien éduquer mon fils et de trop l'aimer. C'est complètement ahurissant, non ? N'entends pas ? Et donc, du coup, l'ASE a recommandé une visite médiatisée pour moi et retour chez la mère progressif.
C'est dingue.
Oui.
C'est l'ASE d'où, dites, vous pouvez le dire.
Hein. Oh je vais le dire, c'est d'Ambérieu-en-Bugey. Et c'est pas la première fois où on entend parler d'Ambérieu-en-Bugey au niveau de l'ASE, où ils font un peu tout et n'importe quoi. Il y a une mère qui est morte il n'y a pas longtemps, qui a fait un AVC, et elle était gérée par l'ASE de là-bas, et qui ne pouvait plus revoir ses enfants, alors que tout l'autorisait à pouvoir revoir ses enfants.
Alors, s'il y a des éducateurs ou des éducatrices de l'ASE qui nous écoutent, je les encourage vraiment, même de manière anonyme, parce que je sais que vous avez un devoir de réserve et que vous n'avez pas le droit de parler, car vous avez une administration qui déjà pond un règlement qui vous empêche de parler. Mais là, vous êtes à la radio, vous pouvez parler de manière anonyme. Moi, j'ai une question. Comment peut-on reprocher à un papa ou à une maman d'un enfant placé de faire valoir ses droits et d'être présent? Comment peut-on reprocher à une mère ou un père de se manifester pour que cet enfant ne les oublie pas, pour que cet enfant continue de voir et de constater que papa et maman continuent d'être là pour lui, qu'il y a de l'amour? Parce que, bien évidemment, il y a des placements qui sont nécessaires. Vous évoquez cet homme qui était avec votre compagne avant et qui frappait ses enfants, qui a une procédure aux fesses pour violence exercée sur des enfants. Bien évidemment, la réalité aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'il y a plein d'enfants qui sont maltraités et qui, heureusement, grâce à l'ASE, sont protégés.
Oui, oui.
On n'est pas là pour nier ça.
Non, 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 c'est sûr. Non.
Mais il y a tellement des comportements qui sont invraisemblables de la part de certains éducateurs que... Et tout ça, encore une fois, parce que le système, l'organisation... Oui. Est fait de telle sorte qu'il y a un éducateur ou une éducatrice en charge d'un enfant et que c'est sa voix à lui ou à elle qui prévaut. Et c'est dingue, en fait. Parce qu'on parle là d'humain. On parle d'histoire humaine. Et on sait déjà que cette science humaine, elle est tellement subtile, difficile à capter, à comprendre. C'est très, très, très... difficile de comprendre pourquoi il n'y a pas plus de concertation.
Oui, c'est un peu comme vous disiez à Catherine, comme disait Catherine il y a deux jours, une fois qu'un éducateur a pris une décision, plus personne n'ose après le contredire. C'est exactement ce qui se passe là. Et ce jour-là, le jour du procès au mois d'octobre, j'entends une éducatrice qui a fait le suivi chez madame avec monsieur et avec mon fils, et j'entends, elle le dit textuellement, monsieur est brut avec l'enfant, n'a pas un langage adapté avec l'enfant, mais c'est pas grave, on lui pardonne.
De quoi parlait-elle, à votre avis? De quoi parlait-elle?
Du comportement de monsieur avec mon fils. D'accord. Même devant l'éducatrice, elle a noté ça. Et j'ai fait un bond sur la chaise, ça avait l'air de choquer personne. C'est pas grave, on lui pardonne. Je me suis dit, mais c'est pas possible, on est dans une autre dimension, il n'y a personne qui réagit et... Le mec, il peut être brut avec mon gamin, c'est pas grave. Il peut avoir un langage pas très adapté, avec des jurons, c'est pas grave. Il n'y avait que moi que ça avait choqué ce jour-là. Apparemment, j'ai vu personne réagir dans le bureau du juge.
Et à l'inverse, vous, on vous reproche d'être trop présent. Par contre, là, on vous allume. Vous, il n'y a pas de problème.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc pour la visite médiatisée, ça a mis du temps à se mettre en place. Donc ça, c'est en octobre. Ça a pu se mettre en place qu'en janvier 2020. J'ai vu une fois mon fils en janvier, une fois en février. Et le Covid qui arrive, donc mars, et tout le reste supprimé. Ça va reprendre que là, ce week-end, là, samedi.
Alors, vous le voyez une heure, samedi?
Une heure, oui. Oui, oui.
En milieu donc médiatisé, ça veut dire surveillé par... bravo, super. Qu'est-ce qu'il en dit, votre petit bonhomme? Est-ce qu'il... Il manifeste un peu la compréhension de cette situation? Est-ce qu'il a... Parce que 7 ans, c'est tout petit quand même encore. Mais bon, ça comprend beaucoup de choses déjà à 7 ans.
Lui, il ne comprend pas. C'est pourquoi il ne peut plus revenir à la maison. Il ne peut plus revenir chez moi. Noël, il voulait décorer le sapin d'une certaine façon qu'il avait déjà prévu depuis de l'année d'avant. Il voulait faire de telles couleurs. Il voulait faire cette année. Bah, ça a été râpé. Il en était triste par rapport à ça.
Mmh. Cédric, vous lui expliquez tout ça? Vous lui expliquez tout ça? Vous continuez de lui dire tout ça?
J'essaye de lui dire, mais c'est compliqué parce que je sais pas. Je sais que je suis écouté de l'autre côté, donc par la mère. Donc je fais extrêmement attention à ce que je dis.
Pourquoi? Parce que la mère, pendant que vous voyez votre fils, la mère vous observe?
Quand je suis au téléphone avec lui, je sais qu'elle m'écoute. J'entends la résonance.
Ouais, bien sûr, bien sûr.
Et quand je suis en milieu médiatisé, je fais extrêmement attention à ce que je dis parce que je sais que je suis entendu. Et même quand j'ai dit quelque chose de sensé, elle va entendre que la moitié et interpréter ça de façon disproportionnée.
C'est dingue d'ailleurs qu'une mère, en fait, parce que les femmes ont cet instinct, hein, en plus de nous, cette chose, comme disait Johanna tout à l'heure, la maman, la mère, elle enfante, la mère, c'est sa chair, c'est son sang.
Je ne suis pas aussi d'accord, je ne suis pas vraiment d'accord avec elle. Pour moi, l'instinct maternel n'existe pas.
Moi, je vous le dis, moi, c'est ce que je constate chez bon nombre de mères qui agissent lorsqu'elles se séparent de manière à ce que leur enfant ne manque pas de leur papa,
oui.
parce qu'elles oui. elles savent que l'équilibre de leur enfant passe par le fait que cet enfant, il ait une référence aussi masculine et que papa soit toujours présent dans leur vie. Ça n'est pas parce que papa et maman ne s'entendent plus. Et il y a beaucoup de femmes, la grande majorité des femmes agissent comme ça, avec bon sens. Quand une femme agit comme votre compagne, votre ex-compagne agit, excusez-moi, mais il lui manque une case, en fait.
Oui. Tout à fait.
Parce que, obligatoirement, ce petit bonhomme aura un manque de référence, de construction. Il y aura quelque chose dans sa vie qui... Et ça, comment ne pas y penser, en fait ? C'est ça qui me révolte et qui me met en colère. Et bon, voilà, c'est encore de la bêtise humaine.
Là, moi, on me vole ma paternité.
C'est dramatique.
Pour moi, ma paternité, elle
est volée. Je vous le confirme. On vous vole votre paternité. Et c'est dramatique.
Tout à fait.
C'est dramatique pour votre fils, en premier, et c'est dramatique pour vous aussi, parce que, bien évidemment, on a sans doute, quand on est à votre place, et il y a beaucoup de papas qui sont comme vous, et beaucoup de mamans aussi, hein, parce que faut pas oublier qu'il y a des hommes qui sont bien tordus et qui agissent de cette manière. On en a eu d'ailleurs le témoignage il n'y a pas très longtemps sur cette antenne. Vous voyez, en fait, ce qui est... Alors, je vais vous raconter ça, cette anecdote. Parce qu'il y a peut-être une quinzaine de jours, il y a une maman qui m'a appelé, qui m'a parlé d'aliénation parentale de la part de son ex-mari, avec cinq enfants au milieu.
Oui.
Et en conclusion de ce témoignage, j'ai dit à un moment, ce que je vous dis ce soir, ces cinq enfants, auront à un moment des problèmes dans leur vie, des problèmes de construction, et donc qui se traduiront par... voilà, ça peut se traduire par une angoisse, un manque de confiance en soi, un manque de confiance profond qui fait qu'on avance moins bien que les autres dans la vie. Ça peut se traduire par de la violence même par rapport à sa compagne quand on est en âge et qu'on a vu des violences chez soi et qu'on répète ce qu'on connaît, en fait. J'ai dit que c'était dramatique et que c'était très triste parce que les premières victimes allaient être ses enfants. Et j'ai reçu, après, le courrier, d'abord d'un ami du père, qui vraiment il était choqué que j'ai laissé d'abord parler cette maman, qui bien évidemment, pour lui raconter, ne racontait que des bêtises. Depuis, j'ai tout de même vérifié tout un tas de choses, et il se trouve que cette mère ne raconte absolument pas de bêtises. Et puis, trois jours plus tard, j'ai reçu la lettre de l'un des enfants, du haut de ses 15 ans, qui m'écrivait comme si elle avait fait Polytechnique. En fait, le père était derrière ce... On voyait que le père avait écrit ce courrier et qu'il l'avait signé au nom de sa fille de 15 ans. Vous voyez, en fait...
Oui, c'est tendu, oui.
Mais on est dans de la manipulation d'enfants, dans la manipulation et dans une bataille qui oppose deux adultes, et ce sont les enfants qui sont victimes au milieu. Cédric, on laisse l'info passer et puis on se retrouve tout de suite après, d'accord ?
Ok,
à tout de suite.
D'accord.
Il est minuit passé de 6 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin, chers amis. Vous pouvez continuer à nous appeler au 3921 ou nous envoyer vos SMS au 739-21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules suivi d'un espace. Comme Black ce soir qui nous écrit que la justice est trop lente et archaïque pour les droits des enfants dans les histoires de divorce. Il faut que cela bouge. Yves nous dit... nous pose une question. Pourquoi fait-on autant souffrir les enfants Pourquoi cette pseudo-maltraitance n'est-elle pas reconnue ? À partir de 7 ans, les enfants savent mémoriser, donner leur droit de dire et de se défendre avec leurs mots à ces enfants. Cela m'écœure, dit Yves. Et puis, Catherine vous pose une question, Cédric. Avez-vous pris un avocat ? Comment cela se passe pour votre enfant à l'école ?
Oui. Comment ça se passe à l'école ?
Oui.
Eh ben, il va à l'école et apparemment, c'est un très bon élève. Et d'après ce que j'ai entendu, c'était un très bon élève, l'un des meilleurs de sa classe.
D'accord. Et sur l'avocat, en fait, est-ce que vous estimez que vous avez été bien accompagné?
Oui. Au départ, non, parce que je prenais beaucoup d'aide juridictionnelle et j'ai changé au moins 3 fois d'avocat. Et là, j'ai dit stop et j'ai pris un avocat qui se fait entendre dans ce domaine-là, qui se spécialise dans ce domaine-là à Marseille.
D'accord. Et le fait qu'il soit à Marseille, ça n'est pas trop compliqué?
Non, on s'appelle régulièrement, pratiquement deux à trois fois par semaine, et c'est vraiment quelqu'un, il est vraiment génial. Hein. Il est très proactif, il est actif et proactif, c'est vraiment quelqu'un de génial. Et il commence à se faire connaître, en plus, dans toute la France, parce qu'il bouge sur toute la France, et il a gagné quand même beaucoup de procès par rapport à ça, par rapport à l'ASE.
D'accord.
Allô ?
D'accord, oui, non, je suis en train de réfléchir à ce que vous me dites. Samedi prochain, donc, il y a 7 heures avec votre petit, donc avec des éducateurs autour. Ça, en fait, c'est prévu de durer combien de temps avant que ça bouge ?
Bah, le prochain procès avec la juge, c'est le mois prochain.
D'accord. Donc, ça peut changer, à votre avis ? Vous pensez que...
je pense pas que... D'après ce que j'ai eu une réunion avec l'ASE en début de septembre et elles m'ont très clairement dit qu'elles ne pensaient pas que ça changerait. Pour elles aimeraient bien que l'enfant, que mon fils reste chez sa mère et que moi, je reste encore en visite médiatisée.
D'accord. Et est-ce qu'elles évoquent notamment le fait que vous soyez à 400 km ?
Elles m'ont fait la réflexion au tout départ, mais je leur ai dit que je n'avais pas l'intention de retourner dans l'Ain. Tout simplement, je n'ai pas envie de retourner là-bas. Mmh. Parce que c'est pas ma région, je suis allé là-bas pour elles. On a eu notre enfant là-bas, certes, mais c'est pas ma région, c'est pas mon coin. C'est vraiment pas mon coin. Mmh. Même s'il y a mon fils, non. J'aimerais bien faire revenir mon fils chez moi, du coup, pour être sûr qu'il soit en sécurité, au moins.
Mais est-ce que votre avocat vous dit que ça peut évoluer, là, ça peut changer à la prochaine audience ?
Lui, il espère. Lui, il espère, parce qu'il y a... Il a relevé certaines anomalies et il espère les faire valoir devant le juge.
D'accord. Et vous avez de l'espoir là-dessus ? Vous pensez que ça peut marcher ?
Oui, il faut toujours avoir l'espoir, je pense. Il faut toujours être positivé et se dire que ça va marcher. Si ça ne marche pas, si on ne passe pas par la porte, on ne passera pas par la fenêtre. On y arrivera toujours à trouver un moyen et à un moment donné, ça passera.
D'accord. Alors, vous allez me tenir au courant un petit peu de tout ça, parce que c'est important que celles et ceux qui nous écoutent ce soir voient comment tout ça va évoluer. C'est bien aussi que dans les deux régions concernées, des personnes soient au courant de cette histoire, de votre histoire, de l'histoire de ce petit bonhomme, et qu'on sache que, voilà, Europe 1 et la Libre Antenne... se font le relais de cette histoire et seront attentifs à toutes les décisions qui vont être prises. Parce que on n'a pas le droit de se tromper, encore une fois, je le rappelle. Ce sont des destins d'enfants qui se jouent là, mais aussi le destin de ces adultes qui sont fracassés parce que la paternité ou la maternité sont niées par l'un ou par l'autre, et bousillées. N'hésitez pas, en tout cas, à me rappeler, Cédric, et me tenir au courant.
Pas de souci.
D'accord ?
Merci beaucoup.
Et courage à vous. Tenez bon.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.